philosophie à l'université de Fribourg en Suisse. Comment est-ce qu'un religieux peut devenir philosophe? Pour quelles raisons vous êtes devenu philosophe? Et deuxième question, est-ce qu'un religieux peut être un bon philosophe? Est-ce que ce n'est pas incompatible?
C'est sûr que vous posez là une question très importante, puisque je ne vis pas ma vie philosophique au sens absolu. J'essaie de vivre une vie chrétienne, et une vie chrétienne poussée jusqu'au bout, c'est-à-dire une vie religieuse. Mais la vie religieuse, la vie chrétienne, si elle est vécue d'une manière intelligente, ce que je crois ne fait pas de mal à la vie chrétienne, d'être vécue d'une manière intelligente, pas d'opposition. Il peut y avoir à ce moment-là une réflexion philosophique sur les grands problèmes de la vie humaine, sur les grands problèmes de notre expérience humaine, d'homme. Et à partir de là, si on est attentif, ça exige une très grande lucidité. Je ne dis pas un esprit critique, mais une très grande lucidité pour bien comprendre ce qu'on dit en tant que chrétien et ce qu'on dit en tant qu'homme, homme qui veut être intelligent, qui veut chercher, qui veut comprendre, qui veut ouvrir son dialogue avec tous les hommes, parce que je crois que la question est là. Si on est avec un chrétien, on peut tout de suite parler chrétiennement, on a une référence par rapport au Christ, par rapport à la Bible. Si on est au contraire en face d'hommes qui volontairement ont oublié ces références ou ne les ont jamais connues, on est obligé à ce moment-là d'avoir un langage qui correspond à notre réflexion typiquement humaine. Je dirais qu'aujourd'hui, tout chrétien intelligent devrait pouvoir avoir ces deux registres. Autrement, on arrivera dans cette position qui m'a toujours beaucoup frappé. Quelqu'un comme Merleau-Ponty, qui n'hésite pas à te dire « Je n'aime pas de parler des catholiques, parce qu'ils savent. » Je dirais que ces catholiques qu'il a rencontrés n'étaient pas assez philosophes, n'étaient pas assez intelligents humainement. Autrement, Merleau-Ponty n'aurait pas dit ça. Il a dit « Ça m'intéresse de parler avec des gens qui peut-être ont eu une culture très différente de la mienne, qui maintiennent dans leur vie un aspect chrétien, mais qui restent en contact avec des problèmes humains. Et si on reste en contact avec des problèmes humains et qu'on y réfléchit, on peut, en faisant attention, avoir un langage proprement philosophique. »
Mais est-ce que vous n'avez pas, d'une certaine manière, été recherché dans la philosophie ce que vous saviez déjà par la foi et plus essayer d'élaborer une apologétique qui prouve philosophiquement que ce que vous pensiez au niveau de la foi et de la théologie était vrai et communicable à tous les hommes? Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce d'apologétique dans ce désir de...
L'apologétique larvée.
Larvée.
Je crois pas. Personnellement, j'aime pas du tout l'apologétique. Alors ça me gendarme contre ça. Et facilement, je dirais que l'âge apologétique était le début de ce siècle est complètement dépassé aujourd'hui. Et que si on prenait encore un langage apologétique aujourd'hui, je crois que c'est un peu désastreux. Les jeunes n'aiment pas du tout l'apologétique. Ils le sentent tout de suite. Ils sentent, si on a un langage direct avec eux, si on parle à leur cœur, à leur intelligence, et on ne cache pas. Je n'ai jamais caché que j'étais chrétien. C'est pour ça que ça ne me gêne pas du tout de porter l'habit. Au contraire, ça m'aide. Parce que comme ça, je n'ai pas besoin de rappeler tout le temps, vous savez, je suis chrétien. Non, on le sait. Et on essaie, au contraire, de réfléchir sur les problèmes humains. C'est très vrai qu'il peut y avoir ce souci apologétique qui a existé au début du siècle, jusqu'à la moitié du siècle, quoi. Et qui existe encore chez quelqu'un d'autre. J'ai pas mal de chrétiens d'aujourd'hui. Mais ce qui me frappe énormément, c'est que Jésus n'est pas un apologète, d'un être remarquablement intelligent et qui est entièrement fils de Dieu et qui, je crois, j'ai toujours cherché, est-ce qu'il n'y a pas dans l'évangile des lieux où on verrait Jésus philosophe? Ça m'intéresserait beaucoup. On ne le voit pas dans Marc, Matthieu, Luc, et dans Saint Jean on le voit.
À quel endroit?
Étant donné, je prends ça comme grande recherche, Jésus a un pouvoir merveilleux d'adaptation, pas apologétique, d'adaptation humaine. C'est-à-dire, il sait à qui il parle. Et il parle pour être compris. On le voit très bien avec le dialogue avec la Samaritaine. C'est peut-être là où c'est le plus éloquent. Quand la Samaritaine lui donne, elle est digne d'être moderne, la Samaritaine, lui dit directement, un juif ne parle pas une Samaritaine. On voit tout à fait le contexte de quelqu'un aujourd'hui qui vous dirait ouvertement ça. Un catholique, un chrétien ne parle pas avec ces gens-là. Et Jésus le sait. Et Jésus, cependant, veut éveiller en elle la curiosité. Parce que c'est peut-être ça qu'il a perdu, la curiosité. Et il éveille sa curiosité vers quelque chose qu'il n'a pas compris. Eh bien, dans l'évangile, il y a un passage que j'ai toujours beaucoup aimé, mais je n'avais pas saisi qu'on pouvait aller jusque-là. Je crois que Jésus parle en philosophe à Pilate. Et si je reprends tout le dialogue de Jésus à Pilate, on voit qu'il parle en philosophe. C'est ce passage si étonnant où Jésus dit « Je suis venu rendre témoignage à la vérité. » Alors on prend ça comme exergue, comme c'était la vie apostolique de Jésus, c'est pas ça. Il est venu rendre témoignage qu'il était fils de Dieu. Mais à Pilate, dire qu'il était fils de Dieu, c'est, ça ne veut rien dire du tout. Tandis qu'il parle de l'autorité, du pouvoir. Il parle de la vérité. Et Pilate comprend très bien. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Il ne faut pas oublier qu'à Rome, à ce moment-là, c'était la philosophie d'Épictète, c'était la philosophie stoïcienne qui était présente. Et la philosophie stoïcienne recherche la vérité. Une vérité pratique. Peut-être rechercher une vérité pratique. Comment être pratique dans sa vie? Comment être vrai dans sa vie? Jusqu'où pouvons-nous aller? Je crois que tout le discours de Jésus vis-à-vis de Pilate, moi je le mettrai Jésus philosophe, en face d'un homme de pouvoir. Jésus ne va pas, en face de Pilate, exercer son autorité.
Spirituelle.
Spirituelle, il ne comprendrait pas. Et temporelle, encore moins, c'est en dehors de sa perspective. Mais la vérité, oui. Il parle ce langage extrêmement net et précis à propos de l'autorité de Pilate. Quand Jésus parle à Nicodème, il parle en théologien. Quand Jésus parle, alors ça, est-ce que c'est de l'apologétique? C'est pas du tout de l'apologétique. Être attentif à l'expérience de celui à qui on parle. Être attentif à sa manière de recevoir les choses, c'est pas du tout apologétique. C'est au contraire entrer dans le jeu et désirer faire qu'il y ait un lien d'amitié. Je crois que quand on fait de l'apologétique, on n'attire aucune amitié.
On cherche à convaincre.
On cherche à convaincre. Donc on cherche à ramener à soi. Et vis-à-vis des jeunes, c'est le pire de tout, ça. Dès qu'un jeune comprend ça, il s'en va, il tourne le dos. Tandis qu'au contraire, lui montrer qu'on s'intéresse à lui et qu'on désire cheminer avec lui. Être tout proche de lui, c'est merveilleux, il écoute, ça l'intéresse. Et je crois que la grande tactique de Jésus, c'est d'être cela. Il n'hésite pas un seul moment de dire d'où il vient, ce qu'il est. Mais dans sa vie apostolique, il a une capacité étonnante de se mettre tout proche de celui qu'il écoute. Il vient, je crois que si je regarde attentivement Saint Jean, justement, qui m'apprend ça, je vois qu'il y a une place pour le chrétien d'être philosophe. Et pour moi, le Concile Vatican II a été pour moi le signe que l'Église demandait ça. puisque Vatican II nous demande l'ouverture au monde. Je ne comprends pas une ouverture au monde sans la philosophie, moi. C'est-à-dire sans la compréhension de l'homme. Et une compréhension de l'homme au sens très grand. Pas un système. Parce qu'un système, on retrouve l'apologétique. On plaide son système. Et on n'a pas plaidé son système, on cherche la vérité. Et on se met à la recherche de la vérité partout. On la possède plus ou moins. Ou on est plus ou moins possédé par elle. Ça, c'est autre chose. Mais on cherche cela. Alors, à ce moment-là, le problème important, c'est de savoir si celui avec qui on parle s'intéresse. J'ai enseigné beaucoup dans toute ma vie. Je pourrais le dire, et je le redirai plusieurs fois. La seule chose que je demande à un étudiant, je ne demande pas « est-ce que vous comprenez ?» Je demande « est-ce que les cours vous intéressent ?» Ceux qui disent « non ». Il y en a qui me disent « j'ai beaucoup de peine ». À se dire, mais ça m'intéresse beaucoup. Je dis très bien, continuez.
Donc ce qui intéresse le philosophe, c'est l'homme.
C'est l'homme. C'est l'homme. Et ce qui intéresse le chrétien, c'est qui? C'est l'homme. Qu'est-ce qui intéresse le Christ? C'est l'homme. Et on rejoint alors certaines affirmations du Saint-Père très actuelles. L'homme est la route de l'Église. Ça a scandalisé certains. Mais ça ne peut pas être autrement. Puisque le mystère de la réincarnation est en vue de la rédemption. Donc Jésus est venu pour cela. Il est venu pour sauver l'homme. Et pour nous montrer qu'il avait un regard sur l'homme plus pénétrant, plus humain que n'importe quel autre homme. Là-dessus, il est imbattable. Et quand on lit l'évangile de Jean dans cette perspective-là, on voit que l'évangile de Jean, c'est l'évangile le plus philosophique et le plus mystique. C'est vraiment cette dimension. Il y a un regard humain de Jésus sur l'homme qui reste humain. Alors, évidemment, il y a aussi autre chose. Je ne réduis pas l'évangile de Jean à la philosophie, c'est bien évident. Mais je dis que je vois dans l'évangile de Jean la possibilité d'être purement philosophe.
Donc vous êtes... Pardon. Vous êtes chrétien, vous êtes philosophe, mais vous n'êtes pas un philosophe chrétien. Vous faites pas de la philosophie chrétienne.
Ah, surtout pas. Surtout pas. Parce que je crois que la philosophie chrétienne, c'est encore une apologétique. Oui, notre culture est chrétienne. Oui, très bien, notre culture est chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a construit des cathédrales. Mais si ces cathédrales deviennent des musées, alors, c'est plus ça. Parce que la cathédrale n'a pas été construite pour être un musée. Elle a été construite pour être la maison où on prie, où on vient rencontrer Dieu. Et la culture chrétienne aujourd'hui, constamment, elle est détournée de sa vraie finalité. Alors, je suis, je crois, chrétien avant tout, c'est-à-dire disciple du Christ, en cherchant à l'aimer. Mais être disciple du Christ, aujourd'hui, vu ma vocation de prêtre, de dominicain, la vocation du dominicain, c'est simple, c'est la vérité. Eh bien, si je suis dominicain et que j'essaie de l'être et que j'ai aimé prodigieusement cette vocation et que je continue de l'aimer, c'est donc comprendre la vérité à tous les niveaux sans en exclure aucun. Parce que si je commence à exclure un niveau de vérité, on n'est plus dans la recherche de la vérité. On est exclusif. Et très très vite, on devient l'homme d'un parti. Ce qui est l'inverse de la recherche de la vérité. Il faut cette recherche de la vérité à tous les niveaux. C'est très difficile de maintenir ça dans sa vie. C'est très difficile, mais c'est merveilleux. Parce que il y a une ouverture constante à cette recherche. Et j'allais presque dire, il y a une tentation de curiosité de voir connaître des hommes qui, de fait, ont une culture totalement différente et qui sont des hommes. Et on voudrait les connaître. Et on voudrait... Mais on voudrait les connaître vraiment, c'est-à-dire sans du tout me camoufler, je n'ai pas du tout envie. Je crois que si je rencontre l'homme, l'homme ne s'affarouche pas de rencontrer un autre qui dit tout simplement ce qu'il est. Quand je rencontre un homme, je veux savoir s'il est marié ou pas, s'il a des enfants, ça change énormément. Un marxiste qui a des enfants, c'est tout autre comme langage que quelqu'un qui n'a pas d'enfants. Quelqu'un qui dans sa vie, vit de l'amour. Mais c'est tout à fait autre chose. Tandis que quelqu'un qui serait uniquement l'homme d'un système, l'homme d'une idéologie, pour moi, c'est terrible. Parce que je me sens en face de lui comme devant un mur. Parce que tout ce qui ne sera pas de son idéologie, il va l'exclure. Je dirais même à l'intérieur de l'Église. Il y a des gens qui ont des idéologies dans l'Église. Et ces gens qui ont des idéologies dans l'Église sont quelquefois beaucoup plus loin.
Mais comment à la fois peut-on posséder la vérité si on est chrétien et qu'on prétend détenir une certaine vérité ultime sur l'homme et sa finalité et rechercher cette même vérité sur le sens de la vie humaine en tant que philosophe?
Mais je crois que c'est facile. Si on respecte ce que c'est que la foi, saint Thomas a un article merveilleux là-dessus, de la nécessité de la foi. Il ne dit pas du tout que la foi est nécessaire pour connaître l'homme. Pas du tout la foi pour connaître l'univers. Pas du tout la foi pour connaître ce qu'est le monde, ce qu'est la famille. Non. La nécessité de la foi, c'est parce que je suis orienté vers la vision béatifique. Alors évidemment, ça, je suis d'accord. Si je veux parler de la vision béatifique, la foi m'est nécessaire. Je ne pourrais pas en parler beaucoup au point de vue philosophique. Mais si je veux parler de l'homme, d'abord, je cherche à comprendre ce que c'est que l'homme. Puis ensuite, je verrai si ma foi me donne d'autres certitudes. Et si c'est la foi me donne d'autres certitudes, c'est dans un autre domaine. C'est pas dans le domaine humain. C'est dans le domaine surnaturel. C'est-à-dire ce qui est orienté directement vers la vision béatifique. C'est à cause de la vision béatifique que j'ai besoin de la foi. Mais je suis tout à fait d'accord aussi, c'est que, comme c'est très haut la vision béatifique, comme la foi me conduit vers un sommet extrêmement vertical, elle éclaire tout. Mais je peux savoir avec suffisamment de netteté que la foi éclaire tout, mais la foi ne me donne aucune connaissance philosophique, donc aucune connaissance typiquement humaine. Pour pouvoir dialoguer avec un homme,
comme Merleau-Ponty le disait,
oui, il faut pouvoir être humain, il faut pouvoir être proche de lui au point de vue humain. Si j'ai affaire à un savant, ben, j'essaie de savoir un tout petit peu ce que c'est que la science et puis de comprendre ce qui peut l'intéresser. Mais je crois que ça ne me dérange absolument pas, parce que si je suis attentif à la foi, où la foi me donne-t-elle des certitudes? La foi me donne des certitudes là où le philosophe ne peut pas atteindre. Alors, là où le philosophe ne peut pas atteindre, c'est très bien, la foi me donne des certitudes. Mais ces certitudes, j'y crois, et elles sont certaines pour le croyant, mais elles sont obscures. Elles n'ont aucune évidence pour le croyant.
Pour le non-croyant.
Pour le croyant, elles n'ont aucune évidence pour le croyant. Elles sont certaines,
oui,
mais sans évidence.
Oui, d'accord.
Et donc, si je peux en avoir une évidence, je change de vitesse et je me mets en philosophe, en sachant très bien que le croyant qui est en moi sera très heureux de pouvoir découvrir que cela. Je crois que c'est une question de vitalité pour moi. Un grand vivant croyant veut être pleinement croyant et jusqu'au bout, que sa foi vraiment puisse pénétrer le plus possible tous les domaines. Mais la foi respecte d'une manière étonnante ce qu'est l'intelligence humaine.
Ça doit demander une très très grande lucidité, ça,
ça pour, le, très grande
pour continuer
lucidité
de rechercher jusqu'au bout sur le plan humain sans se dire j'ai la réponse par la foi à tel endroit.
Mais oui, mais j'ai pas la réponse. C'est ce que je dirais.
Parce qu'on voit beaucoup de croyants qui croient avoir des réponses sur tout ce, ce que présente la vie humaine par leur foi.
Mais oui, mais il manque un peu d'intelligence. S'ils avaient un peu plus de curiosité, un peu plus d'avidité et d'éveil intellectuel, ils ne pourraient pas dire ça. Je comprends très bien, je peux interroger l'écriture en me posant la question, et si j'avais le temps, je le ferais, quelle est l'anthropologie révélée dans l'écriture? Je lirai la foi, la Bible, en tant que philosophe. ça me passionnerait. Je le fais de temps en temps, je l'ai fait pour Saint-Jean. Alors là, ça me passionne, parce que c'est passionnant, ça. Mais en faisant ça, je sais très bien que j'ai une lecture de l'écriture à mon niveau horizontal. Même si cet horizontal est très élevé, il reste horizontal. Alors que dès que je lis l'écriture en croyant, et je crois ça extrêmement important, parce que s'il n'y a pas ça, très facilement, alors on ramène la foi à la philosophie. Et on verra, on ramène la théologie à la philosophie.
Donc
tandis
vous,
que si vraiment on maintient cette distinction-là, il n'y a pas de danger.
Donc pour vous, il y a plusieurs étages qu'il faut bien distinguer. Il y a,
oui.
Il y a votre pensée philosophique, votre pensée théologique. Et puis il y a la vie spirituelle et la.
Oui, mais il y a l'unité qu'est l'homme.
L'unité
est l'homme.
Alors,
j'aime bien prendre cette comparaison, puisque vous la prenez. Je ne prendrai pas les étages, moi. Je dirais les niveaux. Et aujourd'hui, on a quelque chose de très simple, qui fait très bien sans dire cela. Les vols d'avion sont à un niveau différent. Je trouve que c'est la meilleure des comparaisons.
C'est des perspectives différentes.
C'est des perspectives différentes. Quand vous êtes à tel niveau et que vous regardez le paysage, quand vous êtes à tel autre niveau, vous regardez le même paysage. Est-ce que c'est gênant? Pas du tout.
Oui, mais on peut dire l'aviateur qui voit toute la montagne d'en haut, est-ce que c'est nécessaire qu'il fasse le sommet en partant du bas et en se fatiguant comme le philosophe?
Je crois que l'aviateur qui voit d'en haut aura un désir intense de prendre cette montagne et de la voir. Parce que ça ne se peut pas du tout.
Alors c'est un peu ce que vous avez fait. Vous êtes théologien, vous avez la foi et vous avez cherché à être philosophe toute
oui.
votre vie. Alors, est-ce que vous pourriez me donner une définition du philosophe?
Il n'y en a pas. La meilleure définition du philosophe, pour moi, c'est celle à laquelle je reviens toujours. C'est Peggy, qui n'était pas un philosophe. C'est la meilleure, c'est-à-dire hein, la plus compréhensible pour les gens. Je ne dis pas la meilleure. Je ne dis pas la meilleure apologétiquement, mais la meilleure, la plus compréhensible pour les gens. Cette chose étonnante, au pays, à sa manière, il n'y a que deux espèces de personnes. Il y a des gens qui descendent le fleuve et des gens qui remontent à la source. Et c'est comme ça qu'ils distinguent les philosophes des non-philosophes. Des quantités de personnes descendent le fleuve. Et alors, à la manière de pays, on le répète, hein, c'est facile de descendre le fleuve. Et pays ajoute les morts, les cadavres descendent le fleuve plus vite que les autres à la course dans la descente. Soyons cadavres, on fait comme tout le monde, on descend le fleuve. Quand quelqu'un, et j'interroge quelqu'un en lui demandant pourquoi faites-vous ça, ah, c'est à la mode aujourd'hui, tout le monde fait ça, je dis alors vous descendez le fleuve, soyez cadavres, ça ira plus vite. C'est-à-dire, ne réfléchissez plus, descendez, faites comme tout le monde, c'est tout. Tandis qu'il y en a certains qui remontent à la source, et qui veulent remonter à la source. Alors Peggy ajoute, c'est difficile de remonter à la source, c'est pénible, il faut accepter d'être seul. Et je crois que c'est très juste, moi ça m'a beaucoup frappé ça. Évidemment, ce n'est pas une définition, c'est une attitude intérieure qui consiste à chercher la vérité. Je dirais, pour moi, c'est ça le philosophe. C'est celui qui recherche éperdument la vérité. Non pas pour la posséder, mais pour être possédé par la vérité. Pour être pris par la vérité. Et c'est pour ça que je définirais assez bien le philosophe, celui qui lutte contre tous ses a priori. Politique, morale, tous les a priori qu'on peut avoir. Il y en a dans des quantités. Il y en aura tout le temps. Lutter contre ça pour être capable d'être en face d'un autre homme, capable d'être en face d'un ami, capable d'être en face d'un saint, capable d'être en face de la nature, d'une petite violette. J'ai beaucoup aimé ce peintre, ce grand peintre, quand il me disait, le peintre, c'est celui qui sait regarder une pomme. J'avais envie de lui dire, mais c'est le philosophe, regarder une pomme. Comme s'il n'avait jamais vu.
Donc pour vous, la philosophie, c'est une véritable purification de l'intelligence.
Une purification de l'intelligence pour essayer de comprendre les choses en profondeur. Je dirais en profondeur. C'est pour ça que j'aime bien Peggy, à la source. Puisqu'en profondeur, c'est à la source. C'est pas regarder comme tout le monde. Parce que tout le monde regarde la réalité. Du moins, on croit regarder la réalité. Parce qu'on confond ce qu'il y a de profond dans la réalité, dans telle réalité, puis ce qui est visible, les apparences. Et c'est pour ça que le philosophe pourra, et c'est un peu comme ça que Merleau-Ponty définissait la philosophie à la fin de sa vie, à travers le visible, saisir l'invisible. Mais voyez, c'est très beau cette définition, mais on rejoint là ce qui est dit à propos de la foi. Il vivait en présence de l'invisible à travers le visible. Alors le philosophe, c'est vrai, c'est celui qui essaiera de creuser toujours plus loin pour découvrir la vérité de telle réalité, des réalités, et surtout de l'homme.
Alors là, la question fondamentale du philosophe, c'est qu'est-ce que l'homme ?
Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Et saisir la vérité de l'homme, et saisir les capacités de l'homme en face de cette vérité, et saisir la finalité de l'homme, ce pourquoi l'homme existe. C'est ce qui me semble être le plus capital, et c'est ça qui permettrait de qualifier la profondeur d'une philosophie. Si une philosophie reste uniquement au niveau du langage humain, hélas, ça existe aujourd'hui. Ben, c'est très bien, mais ça ne va pas très loin. Ça ne va pas très loin. Si une philosophie reste uniquement au niveau logique, ça ne va pas très loin. Si une philosophie commence à connaître l'artiste, ah, c'est déjà bien. Parce qu'il y a des artistes qui sont des génies. Si le philosophe atteint le savant, c'est déjà bien. Et ainsi de suite. Et si le philosophe est en face d'un mystique, comme dit Bergson, il est en face de la profondeur d'un homme où il dira, c'est génial. Vous voyez, les jeunes aiment de dire ça. Ah, c'est super, c'est génial. Et quand ils disent ça, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est qu'on ne baratine pas et qu'on ne dit pas ce que tout le monde raconte et qu'on essaie de saisir quelque chose de simple, pas compliqué, mais en profondeur.
Mais vous devez vous sentir aujourd'hui bien marginal, parce que si on écoute un certain nombre de philosophes contemporains qui vous disent que ça ne sert plus à rien de rechercher ce qu'est l'homme à partir du moment où, depuis Rousseau et Kant, on ne parle plus de nature humaine. Et au fond, est-ce que l'anthropologie contemporaine ne dénie pas à l'homme la possibilité d'une nature commune, la possibilité d'une finalité ? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation philosophique au XXe siècle où ce type de recherche n'intéresse plus du tout les philosophes ? Parce qu'elle leur paraît vaine et ça leur, c'est une recherche qui a intéressé les anciens, on vous dira.
Elle n'est plus sur le marché. C'est vrai, ça je suis d'accord. Mais ce n'est pas le critère philosophique. D'être sur le marché ou pas sur le marché. Ça m'est égal, c'est le critère pour un éditeur, ça. C'est le critère pour un libraire, ça, c'est sûr. Mais c'est pas un critère philosophique, ça. Il y a eu des moments où on était en présence de cela. Je parle des sophistes. Les sophistes sont très, très intéressants. Et il y a beaucoup de modernes aiment beaucoup les sophistes. Parce que, j'allais dire, Asinus, regarde.
Qui se ressemble, ça semble.
Parce qu'ils se ressemblent. Alors, c'est vrai, on comprend très bien qu'ils aiment ça. Être un sophiste aujourd'hui, mais on est sûr d'avoir du succès. Parce que ça a du succès d'être sophiste. Et puis, ça rapporte de l'argent.
C'est quoi un sophiste ?
Le sophiste, c'est celui qui cherche à avoir de l'argent, à plaire. À plaire, à prendre les gens, les plaisants. Et en leur disant, on leur donnera quelques petits trucs, quelques petites recettes pour bien parler. Pour arriver à attirer le public. Vous voyez, c'est dans l'ordre de l'efficacité. C'est plus la recherche de la vérité, mais c'est dans l'ordre de l'efficacité. Alors, si la philosophie se met dans l'ordre de l'efficacité, soyez sophiste. Et comme je suis loin de ce que disait Peggy, voyez, là je descends le fleuve. Je suis efficace avec tous les gens qui sont efficaces. Et je me sers du langage pour être efficace. Et je sais que le langage peut avoir une très grande force de persuasion. Surtout si au-dedans de nous-mêmes, on a une très grande force de persuasion. Oui, monsieur. j'ai dialogué une fois avec quelqu'un. Je ne croyais pas avoir ce dialogue. Je ne dis pas les noms, c'est pas. Peut-être mieux pas. Mais c'était au moment où en France commençait l'influence de la secte.
Moon.
La secte Moon. Votre téléphone, avez-vous du rédacteur en chef de la revue qui commençait. Il me demande de me voir. Non, je dis, écoutez, ne venez pas à Fribourg, c'est pas la peine. Je passe à Paris telle date. Parce que il y avait ma photographie qui était dans le premier numéro. Je l'avais pas vu puisque je l'avais pas acheté. Mais des amis m'avaient téléphoné, mais quoi, père, on vous a vu. Vous êtes allié ça. Donc j'étais un peu alerté. Mais je savais pas plus. Et alors, il m'a dit, j'ai assisté à telle conférence, j'ai pris votre photographie. J'aurais dû demander votre permission. Je l'ai pas demandé parce que je me suis dit qu'avec quelqu'un comme vous, vous ne ferez pas de procès. J'ai dit, oui, vous avez raison. Je ne vous ferai pas de procès. Mais je vous ai écouté. Je dis, c'est des hommes comme vous qu'il me faut. Parce que vous avez une conviction. Vous êtes convaincu. Alors, c'est ce qu'il nous faut. Vous voyez, on est convaincu. Et on peut avoir un langage qui permet de convaincre. C'est pas ce que je cherche. Je ne cherche pas à convaincre. Oui, je cherche à convaincre. Je suis dans un sujet où je sais que il y a de telles attaques qu'on désire rappeler ce qu'est le petit chemin qui conduit vers la vérité, où on essaie de voir les dégâts que ça peut faire. Alors, on est saisi par cela intérieurement et on essaie de le convaincre. Mais ça m'a beaucoup intéressé, vous voyez, cette rencontre. On a parlé pendant une heure. Il voulait à tout prix me convaincre. En me disant, nous ne sommes pas contre les chrétiens. Et je respecte votre foi chrétienne. Je l'admire. Mais je voudrais que vous puissiez nous faire de temps en temps des articles sur des sujets philosophiques. On ne vous demande pas du tout d'y adhérer. Mais je dis, oui, mais je crée des confusions énormes à ce moment-là. Elle me dit, mais ça n'a pas d'importance. Vous pourrez atteindre un public que vous n'atteindrez jamais dans vos revues chrétiennes, dans vos revues catholiques. Là, vous atteindrez un public qui sera... Et quand il m'a dit ça, j'ai hésité. Parce que ça m'intéressait d'atteindre un public comme ça. Puis après tout, je me suis dit non, ça va faire plus d'équivoque que de vérité. Mais c'est pour montrer qu'est-ce que c'est que le sophiste. Convaincre. Alors le sophiste convainc en vue du gouvernement, en vue de la politique, en vue du parti politique. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est évidemment, c'est pas très drôle pour un philosophe qui essaie de chercher la vérité, mais partout, dans toute cette philosophie contemporaine, il y a encore des petites miettes. Et c'est ces petites miettes de vérité qu'on cherche, puisque si on est vraiment un philosophe de la réalité de l'homme, on sait que le mal absolu n'existe pas et ne peut pas exister. Donc l'erreur absolue n'existe pas. Et dans tout philosophe, si loin qu'il soit, il y aura toujours quelque chose par où on pourra. Surtout le philosophe, je ne dis pas les terres, qu'ils soutiennent. Parce que ça, c'est quelquefois très très difficile. Mais le philosophe...
Alors, vous avez dit que ce qui vous intéressait, c'était de comprendre ce qu'est l'homme. Aujourd'hui, ce sont surtout les sciences humaines qui cherchent à comprendre ce qu'est l'homme à travers diverses dimensions. Quelle est la différence entre la philosophie et les sciences humaines pour vous?
Ah oui.
Est-ce que les sciences humaines n'ont pas tué la philosophie, oui. En ce sens où vous l'entendez?
Certains le pensent. C'est sûr. Certains le pensent parce qu'ils pensent que la psychologie a supplanté le domaine philosophique de la recherche des passions, par exemple, de la recherche de l'affectivité, de la recherche de l'amour. Bon, ils pensent ça. Moi, je ne le pense pas du tout, personnellement. Je sais bien que c'est difficile d'arriver à leur faire comprendre cela. Là encore, je vous donne un petit exemple, parce que vous verrez. Il y avait, dans une conférence que je faisais du reste en Suisse, sur l'amour, c'est un sujet que j'aime. cas, je le traitais au point de vue de l'amour divin. Mais dès qu'on traite ce sujet au point de vue de l'amour divin, on est forcé de parler de ce qu'est l'amour. Je ne savais pas du tout qui était dans mon éditoire. Il y avait deux rangées de religieuses, donc là, je savais. Et après, les laïcs. Bon, il y avait peut-être 200 personnes. Un public écoutait bien. Et, pris par le sujet, j'ai dit cette phrase que je dis de temps en temps parce que ça réveille. La psychologie tourne autour du problème foncier de l'amour mais ne dit pas ce que c'est que l'amour. Et ne peut pas le dire. Puis j'essayais de montrer que le psychologue regarde avant tout le point de vue du conditionnement mais ne peut pas atteindre avec sa méthode psychologique. Or il est féru de sa méthode. Ne peut pas atteindre ce qu'est la vraie finalité de l'homme. Il étudie le conditionnement, là il dit des choses extrêmement intéressantes, mais dans la mesure où il nie la finalité de l'homme, le conditionnement perd son sens de conditionnement et devient l'homme dans des situations multiples et diverses. Et on étudie l'homme dans ces situations. Mais l'homme n'est jamais dans une situation tragique s'il n'a pas une finalité. Supprimer la finalité, c'est supprimer le tragique. Et c'est vous mettre, comme dirait Peggy, sur la pente glissante. Et c'est descendre le fleuve, tout simplement. Et pour bien montrer que le tragique est supprimé, le cadavre descend plus vite. Ce qui montre que le tragique, pratiquement, est supprimé. Parce que le tragique, c'est lorsqu'on est en face de quelque chose qui nous saisit profondément. Parce que c'est notre finalité et qu'on voit toutes les difficultés, toutes les luttes et qu'on est prêt à abdiquer et qu'on ne sait plus si on va encore tenir. Et si on est en face d'amis qui vous disent surtout ne faites pas ça, ne faites pas ça, je vous en supplie, et qu'en conscience on sent qu'on doit tenir, alors on a des cantillés de roquet qui aboient. Le psychologue étudie le conditionnement affectif. Alors toute la diversité des méthodes psychologiques, hein, parce qu'il n'y a pas qu'en philosophie où il y a diversité de méthodes, mais en psychologie, il y a des quantités de méthodes différentes. Les psychanalystes, freudiens, ben, c'est évidemment pas la psychologie de quantité de philosophes, de quantité de psychologues. Je termine cette conférence et on met dans le creux de l'oreille, ah, il y a quelqu'un qui est furieux de ce que vous avez dit. Je dis qui ? Oui. L'assistante piégée. Je dis, tiens, l'assistante piégée était là. Oui, un des assistantes piégées. Oui, oui. Je dis, il est suisse. Oui, il est même valaisan. C'est pour ça qu'il est là. Je dis, bon, mais qu'il vienne me voir. Qu'il n'hésite pas de venir me voir. S'il est rageux, s'il est furieux, plutôt que de murmurer derrière moi, il ferait beaucoup mieux. L'un en face de l'autre, commencer un bon petit dialogue. Puis entre deux, on me dit, il est fiancé. Et sa fiancée est là. Elle dit, alors, je suis sauvé. Alors, on sourit autour de moi. Puis je vois, alors je commence à dire, pareil, vous êtes furieux. Je dis, oui, ce que vous avez dit, non. Je ne sais pas ce que c'est que la psychologie. Je sais bien, ça m'arrive souvent qu'on me dit que je ne sais pas ce que c'est que la psychologie. Parce que je ne m'y arrête pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est la finalité, de creuser la finalité. Mais ça m'intéresse, la psychologie. Mais moi, la psychologie, c'est vivre avec des hommes. Ça m'intéresse beaucoup plus que de regarder ça dans les bouquins. Parce que c'est ça qui me semble, c'est ce contact humain qui me semble important à garder tout le temps. Et comme je suis dans un milieu où je suis plongé avec des jeunes et qui ont confiance, je crois que je fais de la psychologie du matin jusqu'au soir. Mais je ne le fais pas d'une façon livresque. Je garde le contact et j'essaie de comprendre. Et j'essaie de rappeler la finalité. Alors, je lui dis tout de suite, pareil, votre fiancée est là, vous êtes fiancée ? Il dit oui. Et je suis très heureux de la saluer. Où elle est là, je la salue. Puis en face d'elle, je lui dis, écoutez, entre nous, hein, je vais vous poser une question très délicate, mais vous me répondrez, parce que moi, je réponds franchement, je vous demande de me répondre franchement. Est-ce que toutes vos études psychologiques vous ont beaucoup aidé à connaître votre fiancée et à l'aimer? Alors, il l'a regardé. Il y a eu un éclair de regard entre les deux qui était authentique, vrai. Il m'a dit, absolument pas. Vous voyez bien, c'est ce que je vous ai dit. Alors, c'est la preuve. Évidemment, si il ne l'avait plus aimé, si il était dans le désespoir, alors à ce moment-là, n'aimant plus, étant replié sur lui, le psychologue pourrait régner. Mais si je regarde le vivant de sa vie plénière, c'est tout à fait différent. Il aime, il découvre l'amour.
Mais s'il avait été philosophe, est-ce que ça lui aurait aidé, ça l'aurait aidé d'une manière ou d'une autre?
Je crois que ça lui aurait donné de la lucidité. Le philosophe ne se sert pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion en philosophie. Il y a une lucidité plus grande de l'intelligence. Et moi, mon intelligence m'a toujours aidé beaucoup à connaître les hommes, et peut-être encore plus les femmes. Ça m'aide, ça fait connaître l'autre. Un homme, on croit toujours qu'on le connaît un peu, parce qu'on se connaît. Mais une femme, c'est plus difficile. Alors là, l'intelligence aide beaucoup pour connaître l'autre.
Donc, d'une manière générale, vous distingueriez la recherche philosophique de celle des sciences humaines? Dans ce que les sciences humaines regardent plus le conditionnement, voilà, le de conditionnement. L'homme sans s'intéresser
et
à ce
qui qu'il prend une valeur énorme et qui prend une valeur humaine, une valeur énorme quand vous êtes dans la maladie, quand vous êtes replié sur vous-même. Vous savez bien quoi, on est tous comme ça. Quand on est fatigué, il y a un repliement sur soi, et dès qu'il y a un repliement sur soi, mais on vit dans le conditionnement beaucoup plus. Et on a l'impression, et on revient là-dessus, on tombe un peu dans le scrupule, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, pourquoi j'ai fait ça? Et ainsi de suite. Mmh. Et on essaie d'éclairer ça. Alors, je dirais tout simplement, est-ce qu'on peut guérir le malade si on ne connaît pas le bien portant? Peut-on faire une vraie psychologie? Là, je sais que je suis très dur en disant ça. Mais tant pis, puisqu'on on a dit qu'on jouait le jeu jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut connaître vraiment le malade, si je ne connais pas le vivant, le bien portant, si je ne connais pas l'homme dans une perspective de philosophie réaliste, qui veut connaître l'homme jusqu'au bout, le plus possible, je crois que je ne peux pas connaître le malade. J'éclaire le malade par le vivant. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des tonnes maladies, surtout au point de vue psychologique, des ruptures, qui éclaire profondément ce qu'est l'homme. J'allais dire comme des crevasses, vous savez bien, en montagne. Il y a des crevasses. Quand vous êtes dans la neige fondue, hein, la neige, c'est affolant. Vous ne voyez plus rien. Mais quand vous êtes devant une crevasse, alors, il y a des chocs dans la vie qui vous mettent comme ça. Et vous ne savez plus trop quoi faire. Alors, le psychologue peut aider. Que le philosophe, s'il n'est pas assez psychologue, risque à ce moment-là d'affirmer peut-être trop ce besoin de finalité, cette exigence de finalité.
Vous parlez beaucoup de la distinction entre le conditionnement et la finalité. Est-ce que vous pourriez préciser ces deux termes? Qu'est-ce que vous entendez par conditionnement et
par
finalité?
C'est une petite clé philosophique, une clé extrêmement importante.
Oui, c'est vraiment.
Oh, c'est une clé qui est extraordinaire. C'est pas toujours commode, hein, dans le concret, de bien voir ça. Mais c'est très important. Alors, comprenons le conditionnement par la finalité. Puisque la finalité doit être plus intelligible que le conditionnement. Donc c'est par la finalité. Seul celui qui a saisi un peu ce que c'était que la finalité peut saisir le conditionnement. Et j'ai saisi ça merveilleusement chez l'artiste. Parce que pour moi, l'artiste, c'est celui qui me fait le mieux comprendre ce que c'est que la psychologie. Parce que les artistes, ordinairement, sont des hommes qui ont une certaine grandeur et qui ont une psychologie assez développée, un sens du drame. C'est beau de voir ça chez l'artiste. Et donc, c'est chez eux qu'on comprend mieux. Quelle est la finalité de l'artiste? C'est là où je saisis le premier moment de la finalité. Quelle est la finalité? On demande ça à un artiste. Et vous êtes artiste pour faire. Mais je suis artiste pour faire une œuvre. Mais je porte en moi ça. Je porte cette œuvre en moi. Et il faut que je la réalise. Il porte en lui certaines idées, certains projets, il veut les réaliser. Sa finalité, c'est quoi? C'est l'œuvre. Là, je saisis tout de suite ce que c'est que la finalité. C'est une finalité très particulière pour le philosophe, mais c'est celle qui est la plus manifeste. De sorte que dans un monde comme aujourd'hui, c'est toujours par là que je crois qu'on doit prendre le petit sentier de la finalité. Parce que personne ne nie que l'artiste est fait pour réaliser une œuvre. Et un artiste qui ne réalise que des croûtes et qui dit qu'il a des idées merveilleuses est un pauvre artiste. Pauvre artiste. Il vaut mieux changer de métier. Non. Je me souviens, c'est méchant de dire ça, mais c'était la comparaison qu'on faisait entre Sartre et Gabriel Marcel. Il fallait entendre Gabriel Marcel parler de son théâtre, et surtout du théâtre de Sartre. Alors, pauvre Gabriel Marcel était furax de voir que le théâtre de Sartre, eh oui, avait quelque chose qui éveillait, et que ça se jouait. Tandis que le sien, pas du tout. Il ne comprenait pas, parce que là, il était édifiant. Et Claude n'était pas précisément édifiant. Et alors, il comprenait absolument pas, mais c'était très curieux d'entendre ça. C'était très, très curieux, ça, c'était deux philosophes. Et sur un domaine qui n'était pas le leur, directement.
Oui, alors, vous lui avez dit que c'était des croûtes.
J'ai pas dit ça, parce que j'aimais bien mon Gabriel Marcel. Je l'ai...
Valoriser Sartre et c'est venant de vous, c'est bien. Alors qu'on s'attendrait plutôt à l'inverse. Non, non, c'est très bien comme exemple.
Ça, c'est vécu. Je l'ai vécu avec Gabriel Marcel. Pas avec Sartre, je l'ai vécu avec Gabriel Marcel.
Donc, vous disiez que donc, l'artiste a une finalité qui est l'œuvre.
Qui est l'œuvre. Il y a un artiste qui écrit des pièces, et ces pièces pourraient être jouées. Oui. Et je vois de vrais artistes, quand ils écrivent une pièce, parce qu'ils ont été possédés par cette pièce, qu'ils ont peut-être mis toute une année pour l'écrire, le désarroi, quand ils voient que cette pièce peut pas jouer. C'est extraordinaire de voir ça. C'est très touchant, du reste. Parce qu'on voit très bien que c'était pour ça. L'œuvre est faite pour qu'on l'use, pour qu'on en use, alors qu'elle soit interprétée, qu'elle soit jouée à un peintre. Pour qu'il y ait une exposition. Un peintre qui ne pourrait jamais faire d'exposition, qui entasserait ses tableaux, un peu comme Rouault, au point de départ. Eh bien, ça, il entassait. Mais Rouault, à un moment donné, a voulu que, en disant tout ça, ça ne signifie rien, il s'est mis à brûler tous ses tableaux. Et il m'a dit à moi, personnellement, et on dira un jour, que Rouault est sadique, il a brûlé ses enfants. Eh bien, je ne suis pas sadique. Mais je brûle tout ça. Parce que ça ne peut peuple. L'artiste est maître de son œuvre et il a le droit de brûler son œuvre parce que ça ne lui plaît plus et ça lui appartient. Vous voyez, ça c'est très intéressant parce que ça montre que la fin que l'artiste, auquel l'artiste tend et qu'il saisit, n'est pas une fin absolue. Si c'était une fin absolue, ça lui appartient. Toujours tendu vers. Les très grands artistes sont comme ça. Parce que dès qu'ils sont terminés, ils n'osent presque plus le regarder. Tellement ça ne réalise pas jusqu'au bout. Et ils repartent dans un autre sens, exprès, et quelquefois un sens diamétralement opposé.
Mais là, la finalité provient de l'homme lui-même.
La finalité provient de l'homme lui-même, de son idée. Il est possédé par son inspiration. Et cette inspiration le conduit. Mais il est quand même possédé par l'œuvre. Et ce n'est pas, comme vous dites, ce n'est pas une véritable fin, parce que cette fin n'est pas plus grande que lui. En tant qu'artiste, en tant qu'il possède une inspiration, une idée, cette idée est plus grande que l'œuvre qu'il réalise. Et il mesure la valeur de l'œuvre en fonction de ce qu'il porte en lui. S'il est un petit artiste, il mesurera l'œuvre en fonction de la vente. Ce que Picasso faisait admirablement. Il savait très bien que certaines choses, aucune espèce d'importance. C'était vendu. Et les choses qui l'intéressaient, il les gardait pour lui. Parce qu'elle était conforme à son idée, ou au moins en vue d'une certaine réalisation. Il le gardait. Et alors, on est donc en présence d'une première fin. Je prendrai tout de suite un autre exemple. Dans l'amour d'amitié. Évidemment, c'est plus rare.
Parce que je crois... Vous appelez l'amour d'amitié.
Ah, je prends l'amour d'amitié, ça. Évidemment, si. Si on prend l'amour d'amitié, qu'on commence à l'expliquer.
Simplement, parce que l'expression amour d'amitié veut rien dire pour personne. C'est une expression qui vous est propre.
Si, mais pas entièrement.
Parler de l'amitié, alors peut-être.
Oh non, j'aime mieux dire amour d'amitié. J'y tiens
j'ai
beaucoup.
J'ai peur que l'expression comme ça.
Une fois qu'il explique, c'est bon.
Ah, oui, mais...
C'est la traduction de la philia grecque.
Oui.
Et la philia grecque, c'est l'amour dans ce qu'il a de plus parfait.
D'accord.
Et c'est pour ça que je dis amour d'amitié. Le mot amitié aujourd'hui est tellement tombé dans quelque chose de tellement, j'allais dire, vague, commun, camarade, camaraderie.
Donc là, c'est un amour personnel.
C'est un amour personnel. J'ai lu un livre qui est paru, je ne sais pas, il y a quelques années. On mettait amitié et amour. On mettait amitié et amour et on opposait les deux. Et on montrait que l'amour, c'était pas du tout l'amitié. C'est constamment comme ça, je sais. Mais là, je suis en face de quelque chose que je trouve très grave. Et c'est pour ça que je crois que le philosophe doit maintenir, coûte que coûte, certains mots et ne pas faire des concessions. Il explique. J'ai dit que l'amour d'amitié, ou l'amitié, quand l'amitié est vraie et personnelle, c'est un amour parfait. Et c'est pas un amour second. Il y a en effet des amitiés qui sont utilitaires. On connaît ça dans le monde. C'est très simple. C'est pour les examens. C'est très important. J'ai ami avec quelqu'un. Alors c'est une amitié utilitaire. Le fort antenne qui s'allie avec le fort en version, dans tous les sens. Alors c'est une complémentarité. C'est merveilleux, donnant, donnant. Et on s'entend tant que cette complémentarité et cette utilité. C'est l'amitié qui peut exister chez des voleurs, des brillants. Ça existe encore ouais, aujourd'hui.
Partout dans le monde, dans
votre
entreprise.
Dans votre entreprise.
Tu es mon ami. C'est utile.
Voilà. Ça augmente ma personnalité. On met ça sur sa carte de visite. Je suis l'ami d'un tel, l'ami d'un tel, l'ami d'un tel. Je peux comme ça avoir le bras long. Puis il y a des amitiés de plaisir. J'aime l'autre parce qu'il me donne de la joie, de la jouissance. À tous les niveaux. Épicure distinguait ça admirablement. Une jouissance très spirituelle. Ensemble, on aime de discuter, de raffiner notre discussion. Et on va très loin. Et on est joyeux de ça. De voir quelqu'un qui comprend et puis plein d'humour. Et puis on ricane, on critique les gens. C'est merveilleux. Puis il y a un amour plus sensible, affectif. J'aime telle personne. C'est surtout chez les jeunes, ça. Ils sont heureux de se rencontrer. Ils ne sont pas vus depuis longtemps. Alors on prend un repas ensemble. L'amour d'amitié autour d'une bonne bouteille, c'est merveilleux. La bouteille est dans. L'amitié augmente. Ce qui montre bien qu'on est là au niveau d'une, j'allais dire, d'une passion amicale. Mais très noble et très belle. C'est beau, ça. Et on est heureux. J'aime mieux ça de voir deux amis qui prennent un bon repas que de voir un gourmet seul, attablé, avec un menu extraordinaire et une bouteille de étonnant du meilleur cru et qu'il est là, seul. Pff, là, là, c'est terrible. Tandis qu'au moins, on partage, comme on dit aujourd'hui, et on partage dans une amitié qui est vraie, honnête, simple. Et puis il y a des amitiés qui sont j'allais dire, encore plus de jouissance. Alors là, je ne veux pas m'étendre, parce qu'aujourd'hui, on s'étend suffisamment dans ce domaine-là. Tout le domaine de la sexualité, c'est le domaine de la réciprocité et des échanges réciproques dans une certaine amitié. Et vous voyez, c'est pour ça que je prends un mot d'amitié, pour que tout de suite, je me place dans une amitié personnel, spirituel. Et quand je dis spirituel, je n'exclus pas le bon repas amical. Je crois qu'il n'y a rien de tel pour être gourmet que d'être spirituel. Et à ce moment-là, les repas prennent une physionomie très différente. Et donc, la passion n'est pas exclue, mais elle est ennoblie. Elle est dépassée. Il y a quelque chose de très très grand. Parce qu'on est lié dans un amour très profond, très intime, très personnel. On s'est choisi librement comme ami. On s'est choisi dans cet amour d'amitié. Et donc, là, l'amour est très présent dans ce don mutuel.
Et là, vous voulez dire que l'ami est une fin, est une finalité
voilà.
pour l'ami.
Alors, ce qui est très ami, très mystérieux, je dis, mystérieux au sens philosophique, c'est que je ne peux pas être à moi-même ma propre fin, et je peux l'être pour un ami. Là, je suis en face.
Qu'est-ce que ça veut dire finaliser ?
D'un problème extraordinaire,
oui.
qui est le problème qui nous unit tout à la philosophie grecque et à la philosophie contemporaine. Alors, finaliser, qu'est-ce que ça veut dire ? Être fin de quelqu'un, c'est-à-dire être son bien. Je suis la fin de quelqu'un, je suis la fin pour quelqu'un quand je suis son bien. C'est-à-dire que j'exerce sur lui une certaine attraction. Je l'attire. C'est pas la séduction. La séduction, on sait très bien ce que c'est. On joue la séduction. La séduction, c'est de l'ordre de la beauté, de l'ordre esthétique. Dans le sensible. Imaginaire, on séduit quelqu'un. Tandis que attirer, c'est le bien qui attire. Et le bien, quand il est absolu, finalise. Il y a un bien qui peut être le moyen de m'approcher de quelqu'un. Quand j'aime beaucoup quelqu'un, que j'ignore, mais je suis attiré vers lui, je ne sais pas pourquoi, mais et je ne sais pas du tout si cette personne m'aime. Si elle s'inquiète de moi. Je ne sais pas du tout. Elle est très supérieure, du moins. Je la considère comme très supérieure à moi dans le domaine de l'intelligence ou dans le domaine humain. Et je vois d'autres personnes qui sont autour d'elle. J'aimerais bien être auprès d'elle. J'aimerais bien être amie, son amie. Je l'aime. Et je sais que je ne peux être son ami que si lui-même est attiré par moi. Parce que l'amour d'amitié sera justement cette rencontre de deux amours spirituels. On dira deux amours de bienveillance. Mais il faut être très attentif à ça. Ça, c'est le vieux mot qui était tout à fait du XVIIe siècle. Et qui était aussi grec. C'est-à-dire, on veut du bien, un ami. On ne veut pas s'accaparer. On veut du bien. On le respecte. Et on le respecte comme personne. Et cette personne ne peut nous attirer que dans la mesure où on la respecte. Et qu'on la respecte profondément. Alors, à ce moment-là, puisqu'on la respecte, et qu'elle nous attire, et que nous-mêmes, nous sommes pour cette même personne un bien qui l'attire. La rencontre de deux amours spirituels qui se nouent. En se rencontrant, il y a quelque chose de très particulier. Parce que l'attraction qu'on a vis-à-vis de cette personne peut subitement acquérir comme une espèce de force et une liberté. Il n'y a plus cette tension de la recherche. Il y a un tout petit repos dans l'amour. Je sais que je suis aimé. Alors je peux me reposer. Oh, ça ne durera pas. Parce que l'amour engendre l'amour. Et je veux toujours aller plus loin. Mais il y aura quand même un petit moment de repos. Et il y aura un moment de très grande joie. Savoir qu'on est aimé. espèce d'éclosion. J'allais dire, voyez, que quand je suis attiré par quelqu'un, sans savoir si je l'attire, s'il m'aime, il y a un bourgeon, un bouton, qui demande de tenir une fleur. Et c'est au moment où je sais que je l'attire et qu'il m'aime, qu'à ce moment-là, il y a l'éclosion, la première éclosion, qui augmentera progressivement. Il y a ce moment de repos. Et donc l'amour d'amitié exige cette lucidité. On sait que l'autre m'aime et on sait qu'on l'aime et qu'on l'aime pour lui-même dans ce qu'il a de plus profond et on désire apporter autant qu'on le peut une joie à celui qui nous attire. On voudrait augmenter sa joie, augmenter son amour.
C'est dans ce sens qu'on le finalise.
C'est dans ce sens-là qu'on le finalise. C'est dans ce sens-là qu'on est son bien. Qu'est-ce que c'est que le bien ? On ne peut pas définir ce que c'est que le bien. Mais il y a cette description du bien qui est très belle, ce que tous désirent. Parce que justement, l'amour, psychologiquement, se traduit dans le désir. Le psychologue peut parler du désir, mais il ne peut pas parler de l'amour dans ce qu'il a de très profond. Parce que le désir nous conditionne.
Donc le désir, c'est le conditionnement. Donc on commence à distinguer le conditionnement de la finalité.
Oui. Le désir, c'est le conditionnement. Je peux très bien voir.
C'est la manière dont le.
La manière particulière. Oui. La manière particulière dont j'aime, dont je suis attiré. Mais l'attraction dans ce qu'elle a de plus profond, c'est ce duvet du cœur, un cœur qui commence à aimer. Il est plus tiède, il est chaud, il est souple, il est tout entier pris. Et là, je ne peux dire que uniquement c'est l'attraction de l'autre qui est mon bien. Et quand il est mon bien, il me finalise. Et il me finalise quand justement cette attraction s'impose à moi comme un absolu. Je suis bien là. Quand au contraire, je suis attiré mais en vue de chercher quelque chose d'autre, alors ce n'est plus une fin, parce que c'est relatif à un autre. Et on voit tout de suite ça, quand on est pris justement par cet amour vis-à-vis de quelqu'un, et qu'on voit qu'il a des amis. Et si ses amis sont en même temps mes amis, je peux me servir de ses amis pour aller plus proche de lui, et pour savoir certaines choses que je ne sais pas, parce que l'ami pourra poser des questions que moi je ne peux pas poser. Et alors là, je m'en sers. Et dès que je me sers d'un bien, je peux continuer de désirer, mais je ne peux plus l'aimer pleinement et totalement. Ce n'est plus mon bien.
D'accord.
Et je supprime à ce moment-là ce qui est le bien fin et devient un bien relatif.
D'accord. On reviendra tout à l'heure sur l'expérience de l'amour d'amitié dans le cadre de votre réflexion sur la philosophie éthique. Là, vous essayez de m'expliquer la différence entre le conditionnement et la finalité.
Et là, justement, le premier moment du conditionnement, c'est le désir. Mais dans le conditionnement, il y a du plus et du moins.
Mais de manière générale, qu'est-ce que vous appelez le conditionnement ?
Le conditionnement.
Là, vous essayez de m'expliquer ce que c'est que la finalité
après deux expériences. Ce que c'est que la finalité. Bon, ce point de vue-là, ces deux expériences, qui sont deux modèles très importants.
Oui.
Alors, le conditionnement pour l'artiste, ce sera son travail. Il veut réaliser l'œuvre, mais il travaille. Et le travail, il sait très bien ce que c'est que le travail. Il sait que le travail, ça le fatigue. Il sait que le travail prend des instruments. C'est pas l'œuvre. C'est tout le conditionnement qui est autour. C'est très important, ce conditionnement. Parce que s'il n'y a pas ça, j'aurai pas la finalité. Et je ne pourrai pas réaliser l'œuvre. Mais ce n'est pas l'œuvre. Si maintenant je m'arrête, je dis à l'œuvre, je m'en occupe pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'outil. Très bien. Faites la philosophie de l'outil. C'est la philosophie du conditionnement. Un outil me conditionne. Une paire de lunettes que je mets sur mes yeux pour essayer de voir plus clair, ça me conditionne. C'est pas ma vue. Et quand je suis très habitué à ma paire de lunettes, je m'en occupe même plus. Et j'oublie même presque que je l'ai. Tellement je suis habitué. Ça a fait corps avec moi. Mais c'est en vue de voir. Le conditionnement sera toujours du côté des moyens. C'est pour ça que distinguer fin et moyen, c'est capital.
D'accord.
j'use d'un moyen. User d'un moyen, c'est un conditionnement. Et ça me permet d'aller plus loin.
Est-ce qu'on peut dire que le conditionnement répond à la question du comment et la finalité du en vue de quoi ?
Tout à fait. Exactement. Je ne l'ai pas dit parce que je croyais que c'était trop philosophique, mais c'est exactement ça. Celui qui ne recherche que le commun cherche comment réaliser ça. Tandis que celui qui cherche la finalité cherche à aimer. C'est pour ça que le comment est du côté de l'efficacité.
Voilà. Et est-ce qu'on ne peut pas dire qu'assez...
Tandis que la finalité est du côté, justement, beaucoup plus de l'intériorité.
Voilà. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que toute la science contemporaine qui est au niveau du comment... toute la science contemporaine qui est au niveau du comment, qui a influencé toutes les sciences humaines et tout le positivisme du XXe siècle,
tout à fait.
Et qui sont liés tous d'une certaine, enfin je pense à la science est très liée aussi à la technique et à tout ce qui est lié à l'électricité.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a eu une espèce, enfin en écoutant votre analyse, une recherche beaucoup plus au XXe siècle du comment que du pourquoi des choses et de l'homme.
Ce qu'Auguste Comte a joué son rôle là-dessus. Auguste Comte dit ouvertement, la recherche du pourquoi et de la finalité, c'est réservé aux enfants. Ce sont les enfants, c'est pour les enfants. Les enfants cherchent du pourquoi, ils interrogent toujours pourquoi. Tandis qu'au contraire, le positiviste, la science positiviste cherche le comment. Parce que par le comment, je peux dominer. Tandis que par la recherche de la finalité, je peux exercer mon autorité. Alors là encore, de nouveau, une distinction extrêmement importante, qui est une application
entre quoi et quoi ?
Entre l'autorité et le pouvoir et la domination.
Quelle distinction on y fait ?
Le pouvoir est du côté du conditionnement. Le gendarme, il sait très bien ce que c'est que de donner l'amende. Il est dans l'autre du conditionnement. Et l'interrogation qu'il vous fait regarde le conditionnement. Il ne vous demande pas du tout votre finalité. Pas du tout. Jamais.
Il faut que c'est à cause d'elle qu'on n'a pas d'argent.
Tandis, et ça le déroute quand on fourre la finalité dedans. Ça le déroute. Et quelquefois, ça le met sur la véritable route. Parce qu'à ce moment-là, il s'intéresse aux personnes. Il voit que, vous êtes en... Vous faites ça. Oui, c'est à cause de ça. Et c'est de ma faute qu'il roule si vite. C'est parce que je dois absolument être à telle heure, à tel endroit. Voilà la finalité. C'est pas le comment.
Et alors l'autorité, par contre ?
L'autorité, c'est toujours un service en vue de la finalité. J'aide quelqu'un en vue de la finalité.
Donc faire exercice d'autorité...
L'exercice d'autorité est toujours en vue de la finalité.
Donc un éducateur, l'autorité de l'éducateur, c'est regarder la finalité...
La finalité de l'enfant. Et l'autorité de celui qui instruit, qui enseigne, c'est justement le point de vue de la finalité de celui à qui elle est instruite. C'est très curieux, ça. C'est très, très intéressant, du reste. J'en ai fait l'expérience longuement en saisissant exactement qu'est-ce que c'est qu'enseigner. Et j'aimais chaque année de montrer la différence entre le pion et celui qui surveille, entre le professeur qui simplement communique ce qu'il connaît parce qu'il aime de communiquer ce qu'il connaît et celui qui enseigne dans le but de permettre à ceux qui l'écoutent d'être un peu plus intelligents. Je connais un endroit où on disait qu'on faisait la distinction entre les professeurs, entre deux types de professeurs, ceux qui aiment leurs cours et ceux qui aiment leurs étudiants. Ceux qui aiment leur cours, ben oui, nous sommes dans l'ordre du conditionnement. Ce n'est pas une finalité d'aimer son cours. C'est peut-être très important, mais ce n'est pas une finalité. Et celui qui aime les étudiants, ça c'est différent. Ça lui permettra de communiquer sa science.
Donc si on en revient à la question de la philosophie, il vous semble que pour vous, la question fondamentale du philosophe soit plus le pourquoi, et alors que les sciences humaines aujourd'hui s'intéressent plus au conditionnement et au comment de l'homme.
Tout à fait, et là on a tout à fait ce dialogue de sourds quelquefois qui existe entre des positivistes, c'est-à-dire ceux qui ne recherchent que le comment, et qui nient automatiquement tous les pourquoi. Quand je suis en face d'un marxiste, mais vraiment marxiste, un intellectuel marxiste, je s'interroge toujours sur le but de sa vie. Il essaie de savoir s'il est marié ou pas, s'il aime son épouse, s'il aime ses enfants. Il dit, votre philosophie marxiste, qu'est-ce qu'elle vous dit là-dessus? Je sais que ça l'agace prodigieusement. Je veux justement lui montrer les limites du comment. Le comment ne dit pas ça. La dialectique est dans du comment. Les plus grandes dialectiques sont dans du comment. Et la finité est absorbée par le comment.
Oui, alors pourquoi, selon vous, on est arrivé à cette situation de cette perte de la finalité aujourd'hui?
Oh, alors là, c'est vieux.
Mais ce serait très intéressant de le comprendre, parce que toute la pensée contemporaine...
Toute la pensée contemporaine est enfouée dans le comment.
Voilà. Alors, vous dites, il faut rappeler la finalité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, déjà vous-même, dans votre formation, je dirais philosophique, au début de votre carrière de philosophe, vous vous êtes posé cette question de la finalité, et qu'est-ce qui vous a amené à rechercher cette finalité alors qu'on était déjà dans un monde où ce n'était plus d'actualité?
D'abord, il faut bien voir, j'étais quand même... Il faut fermer peut-être, hein, pour ne piquer pas de moustique. Et là aussi, trop de moustiques, vous. Je dis ça pour la nuit. J'aime mieux être un petit peu trop chaud. Je vous inflige. C'est la finalité, vous voyez. Tandis que la chaleur, c'est le conditionnement. Alors, j'ai... Avant d'entrer dans l'ordre de Saint-Dominique, la seule chose que j'aimais, c'était les mathématiques. Je ne savais pas ce que c'était que la philosophie. Comme je me doutais bien qu'un jour j'entrerais dans l'ordre de Saint-Dominique, j'ai voulu faire ma thélème, et au fond, j'aurais beaucoup aimé de continuer. Mon professeur en ma thélème m'avait dit, vous devez continuer. Puis, j'entrais. Le noviciat vous fait découvrir une finalité. Je crois que l'effort d'un vrai père maître, c'est de vous remettre en face de la finalité, c'est-à-dire de la vocation. Ce pourquoi on entre dans un ordre, c'est pour aimer Jésus. Donc développer ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'amour d'amitié. Développer l'amour d'amitié. Donc, développer un sens de la finalité. Ça, je crois qu'on ne peut pas être un vrai chrétien et un novice dans l'ordre de Saint-Dominique. On avait quand même le souci de montrer la finalité des choses, sans du tout, du reste, faire les analyses que j'ai fait tout à l'heure. Je crois que mon père maître aurait été bien incapable de le faire. Mais c'était un homme qui avait un très grand sens de l'amour du Christ. Ça, c'est sûr. Très grand sens de l'amour du Christ. Et ça, c'était très beau. C'était très grand, ça. Après, j'ai fait mes études de philosophie.
Au sein du couvent.
À l'intérieur du couvent. 3 ans de philo. Les 3 premiers mois, j'ai rien compris. Comme c'était mon frère qui m'enseignait, le père Thomas, je lui ai dit à la fin du premier cours, je suis arrivé en novembre, le cours avait commencé en octobre. C'était de la logique. Je lui ai dit, mon vieux, j'ai rien compris du tout. J'ai rien compris du tout à ton cours. Il m'a simplement dit, tu crois que je fais le cours pour toi? Je fais le cours pour la 3e année. Parce que les 3 ans étaient liés. J'ai compris. Vous avez qu'à me taire. Je me suis tué. Puis j'essayais quand même de comprendre. Ça m'intéressait. Puis petit à petit, au bout de 6 mois, j'ai commencé à comprendre. C'était une excellente scolastique. Très bonne.
C'est quoi une scolastique?
Scolastique, c'est-à-dire, au fond, c'est une recherche un peu logique, et même très logique, pour comprendre ce que ont pu dire et ce qu'on peut dire à l'égard de tel ou tel sujet. Il y a une attitude de réflexion sur la démarche
de la pensée,
qui fait que cette réflexion sur la démarche de la pensée prend le pas sur le très intéressant. Et surtout quand on fait de la logique. Quand on fait de la logique, on ne s'aperçoit pas ce que c'est que la scolastique. C'est quand on commence à aborder le problème éthique, par exemple, ou quand on va un peu plus loin au point de vue philosophie première, alors à ce moment-là, on commence à comprendre que, de fait, il y a un pas, une primauté sur l'aspect logique. Et logique implique une attitude réflexive sur ma propre connaissance et sur le conditionnement de ma connaissance. Je retrouve le point de vue du conditionnement. Et non plus, de fait, la finalité qui est la recherche de la vérité. Pourquoi je suis philosophe? Pourquoi je fais de la philosophie pour retrouver la vérité? Donc je me laisse prendre un peu. Je me gargarise de syllogisme. C'est tellement merveilleux de voir que je peux mettre ma pensée en ordre et que cet ordre aboutit à quelque chose que personne ne peut réfuter. Alors je suis fort. Vous voyez, il y a un côté de puissance.
On voit beaucoup ça aujourd'hui. On réfléchit beaucoup sur l'histoire de la pensée, sur l'évolution des concepts, sans s'intéresser beaucoup au contenu.
Oui.
Donc c'était un peu ça, une scolastique, c'était une forme de...
La scolastique de la pensée moderne, un peu ça. À la place de la recherche de la vérité, je chercherai les opinions des gens. Et verrez si ces opinions peuvent coïncider, comment elles s'opposent.
Ce sont les écoles.
Les écoles. Alors c'est une scolastique très différente de la scolastique thomiste, dont on parle, ou de la scolastique bonaventurienne, ou de la scolastique occamienne. Oui, parce qu'il y a diverses
scolastiques. Là, vous étiez dans le cas d'une scolastique thomiste.
Thomiste. C'était Jean de Saint-Thomas, qui est un grand commentateur de Saint-Thomas. Vous voyez, déjà, le genre commentateur est assez significatif. À la place de faire de la théologie, on commente un texte. Et la scolastique aime ce genre de recherche. On commente un texte. C'est très intéressant et c'est très formateur de prendre un texte d'un grand maître, là c'est le texte de saint Thomas, qu'on commente et qu'on essaie de comprendre. Et on voit ordinairement comment l'un l'a commenté, comment l'autre l'a commenté. Et pourquoi ils l'ont commenté de deux sens différents. Et on donne une troisième ou une quatrième manière de commenter. Et on continue. Un commentateur appelle un commentateur. Alors quand vous arrivez au bout d'un certain temps après saint Thomas, on a quand même pas mal de commentateurs. Alors on a les commentateurs, les grands et les petits. Et puis on arrive comme ça, soi-même, à continuer la race des commentateurs. Et c'était comme ça.
Et ça, c'était dans un regard qui se voulait philosophique.
Qui se voulait philosophique, oui.
Est-ce que vous voulez dire maintenant qu'il l'était?
Il n'était pas vraiment philosophique. Il permettait de mettre un peu d'huile dans l'intelligence pour lui permettre de raisonner. Et quand on arrivait en philosophie, on essayait de comprendre. C'était du temps de l'intuition de l'être de Maritain. C'était du temps de l'intuition de Bergson. On essayait de comprendre qu'est-ce que c'est que le point de vue métaphysique. Comment il faut dépasser le troisième degré d'abstraction. Et là, on essayait de voir comment il fallait monter à l'échelle pour arriver au troisième degré d'abstraction pour toucher le point de vue. Le père Thomas, qui était mon professeur, n'était pas scolastique. Il était beaucoup trop intuitif pour être scolastique. Et donc, il avait en lui une force intuitive philosophique qui était très forte, mais il n'était pas remonté vraiment à la source première, et on restait quand même, surtout en logique, dans la perspective de Jean de Saint-Thomas, qui, je le reconnais, est un des meilleurs commentateurs, un des plus forts. Presque personne ne regarde Jean de Saint-Thomas aujourd'hui, ce qui m'a obligé de lire tout Jean de Saint-Thomas, ce que j'ai fait du reste. Mais le père Thomas lui-même aimait beaucoup Jean de Saint-Thomas. Donc on était en face de ces commentateurs et on essayait de comprendre. Et on revenait à la pensée de Saint-Thomas, mais on prenait la pensée de Saint-Thomas en essayant de trouver dans la pensée de Saint-Thomas ce qui était philosophique. Le contenu philosophique de la pensée de Saint-Thomas.
C'est le thomisme, ça.
Et c'est le thomisme philosophique.
Donc il y a une grande tradition philosophique qui s'appelle le thomisme.
Qui s'appelle le thomisme,
que vous avez...
et qui est scolastique, et auquel j'ai fait partie d'une certaine manière, parce que j'ai essayé de comprendre et j'étais dedans.
Et vous n'y êtes plus?
Alors, je dirais le flash, qui était pour moi vraiment quelque chose de très fort. J'entrais en théologie, première année de théologie, envoyé le traité Tédéonaut de saint Thomas. Donc, la fameuse question des voies d'accès sur le problème de Dieu. Comment l'intelligence humaine peut-elle découvrir l'existence de Dieu ? Un problème passionnant, c'est évident. Et on lisait saint Thomas. Ça, c'était en théologie, c'était normal. En philosophie, on ne suivait pas mot à mot saint Thomas, puisque saint Thomas est théologien. Mais on prenait dans saint Thomas
des arguments.
On prenait dans saint Thomas certains principes, certaines définitions. Et la scolastique aimait beaucoup les définitions. Ah, les définitions, ça, on sait la chose quand on peut la définir. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est le logicien qui définit, ce n'est pas le philosophe. Le philosophe, il sait s'il atteint. Alors, j'étais voir le jeune professeur qui m'enseignait à ce moment-là. Et j'ai dit, je comprends rien. Est-ce que vous êtes dit, parce que si je regarde d'une façon purement logique, ça va pas, ça tient pas la route. Saint Thomas donne ses voies avec un mode assez négatif et conclut positivement. Or, saint Thomas, comment ? C'est parfaitement ce que c'est que les analytiques d'Aristote, et c'est qu'on ne peut pas conclure positivement de deux négatives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Expliquez-moi. Alors, il a levé les bras au ciel. Je le vois encore. Non mais on fait, je vous donne saint Thomas, je ne peux pas vous donner plus. Je dis, oui, mais vous devez le comprendre pour que si on vous pose des objections, vous puissiez répondre. Et oui, je devrais faire ça. Mais que voulez-vous ? C'est difficile, les voies d'accès de saint Thomas. Ah, je dis, je comprends que c'est difficile, je ne comprends rien. Et à ce moment-là, je me suis dit, on n'a pas le droit de faire ça. En faisant ça, on fait du tort à saint Thomas. On a le droit, c'est toujours mon principe, de passer des examens brillamment sans rien comprendre, si le professeur n'est pas assez intelligent pour voir qu'on n'a rien compris. Il suffit de faire un beau feu d'artifice. On peut le faire. Mais on n'a pas le droit d'enseigner quelque chose qu'on ne comprend pas. À ce moment-là, on doit avoir l'honnêteté de dire aux étudiants, écoutez ça, je ne comprends pas. Saint Thomas le dit, cherchez, on va chercher ensemble, mais je ne comprends pas. Dire, du moins exposer la pensée de saint Thomas comme si on la comprenait. Et quand on vous pose une question, on n'a pas le droit de faire ça. Ce n'est plus de l'enseignement à ce moment-là. On connaît certains êtres qui font ça, on les appelle des perroquets. Ils répètent matériellement, mais comprennent. Pas le droit de faire ça. Et c'est ça qui a tué le thomisme. C'est ça qui a tué la scolastique. C'est qu'on a répété. Un vieux moulin à café continue de tourner et il n'y a plus de grains en dessous. À moudre. On peut tourner indéfiniment. Alors ça, c'est pas enseigné et c'est pas intelligent. C'est la logique pure pour la logique pure. C'est tout. Et c'est quand je me suis trouvé devant ce professeur, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je me suis dit, il n'y a qu'un seul moyen. C'est de revenir à la source de saint Thomas. Dans le seul choix, on le disait suffisamment. Que la source de saint Thomas, c'était Aristote. Mais au seul choix, à ce moment-là, on n'enseignait pas Aristote. On allait très vite, connaissance des philosophes grecs, ça se faisait très très vite. Et on n'enseignait pas Aristote, pour lui-même, pour essayer de comprendre. Le Père Chenu nous disait tout le temps qu'il y avait les trois pieds de saint Thomas, le trépied de saint Thomas, et qu'il fallait le connaître. Aristote, Augustin, Denis. Mais il fallait soi-même revenir à Aristote, revenir à Augustin, revenir à Denis. C'est ce que j'ai essayé de faire, parce que là, le Père Chenu m'a rendu un grand service. Dit avec force en tant qu'historien. Et je suis revenu alors à Aristote. Difficilement, c'est pas commode de lire Aristote. Surtout de ce temps-là où il y avait très peu de traductions. Il y avait la Vetus Latina qui permettait quand même d'avoir un texte latin à côté du texte grec. Ça m'a obligé du reste progressivement de vraiment d'entrer pleinement. J'avais appris le grec, grâce, heureusement, parce que j'étais encore du temps, j'étais de l'année où on pouvait garder latin, grec et mathématiques. Ça n'a pas duré longtemps, ça. D'habitude, on séparait les deux. Grâce à Dieu, j'avais ça, parce que les mathématiques me sauvaient du latin et du grec. J'étais pas tellement bon, j'étais ordinaire. Tandis que les mathématiques, ça allait. Ça roulait. À ce point de vue-là, j'étais un moderne, vous voyez. J'étais tout à fait un moderne.
Donc, vous êtes plongé dans les œuvres d'Aristote.
Ah, je me suis plongé dans les œuvres d'Aristote. Pendant tout le temps de ma théologie. Je n'avais aucun scrupule. Je savais très bien qu'en faisant ça, je pouvais comprendre beaucoup mieux Saint Thomas. Et j'ai fait mon lectorat sur la sagesse selon Aristote. Le lectorat, c'était l'examen de fin d'études au point de vue dominicain. Et qui était un examen qui portait sur saint Thomas. Et j'ai fait mon lectorat, qui est une espèce de mémoire. C'était pas la licence, mais on donnait le lectorat sur la sagesse selon Aristote. Je me suis plongé dans Aristote. Et une fois qu'on se plonge dans Aristote, on ne peut plus le quitter. Et je ne l'ai plus quitté.
C'est ça, donc vous êtes aller vers Aristote pour comprendre saint Thomas, puis vous avez découvert le philosophe Aristote pour lui-même.
Oui. Au début, j'ai pris les commentaires de saint Thomas. Puis très vite, j'ai vu que ces commentaires de saint Thomas étaient en vue de sa théologie. Ouais. Je me dis, là, je ne saisis pas Aristote pour lui-même.
Et c'est peut-être...
Et j'ai voulu saisir Aristote pour lui-même. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à Platon.
Et c'est comme ça qu'est née votre vocation de philosophe.
Et c'est à partir de là. Parce que quand on m'a demandé, Père Chenu, qu'est-ce que vous voudriez enseigner ? On vous garde comme enseignant au Sochoir, mais qu'est-ce que vous voudriez enseigner ? À ce moment-là, j'ai dit au Père Chenu, oh, j'aimerais beaucoup mieux enseigner le dogme. Alors le Père Chenu dit, oui, ça c'est très vrai, et je comprends très bien, c'est le dogme que vous devez enseigner. Parce que pour enseigner le dogme, il faut aimer la métaphysique, et vous l'aimez. Chenu m'a dit, tu restes en rien, vous comprenez bien. Si on enseigne plus le dogme ce soir, moi j'ai plus de raison d'être. En tant qu'historien. Parce que justement, il regardait le conditionnement. Et que s'il n'y avait pas cette finalité, cette donnée du dogme, ça n'aurait plus d'intérêt. Et alors, j'ai dit ça. Et les circonstances ont fait qu'on m'a envoyé à Fribourg. Je suis donc venu par obéissance à Fribourg. Puisqu'il manquait à ce moment-là un professeur pour enseigner la philo.
À l'université.
Et je suis passé tout de suite à l'université, ce qui se faisait dans le temps, mais dans ça se ferait plus. Parce que j'avais comme grade uniquement d'être docteur en théologie. Et puis c'est tout. J'avais je ne sais plus trop comment ça se situe exactement, mais une espèce de diplôme des hautes études. Un doctorat de troisième cycle des hautes études que j'avais fait avec Vigneault au plan philosophique sur Occam. Parce que ça m'intéressait. Vous voyez, la philosophie m'intéressait. Et Aristote me conduisait beaucoup à ça. Et c'est pour ça que quand j'ai pu aller suivre les cours de Vigneault aux hautes études sur Occam, j'y allais. Et Vigneault m'avait repéré tout de suite. Parce qu'aux études, c'était charmant. C'était tout à fait familial. Et Vigneault m'avait repéré tout de suite. Il m'avait dit, vous êtes bien plus fort que moi sur Aristote. Alors, chaque fois qu'Occam citera Aristote, je vous demanderai si Occam saisit bien Aristote. Si c'est comme ça qu'il faut le saisir, ou s'il faut le saisir autrement. Alors, on avait déjà un dialogue extrêmement intéressant là-dessus. Oui. C'est Fribourg qui m'a fait ma vocation de philosophe. Parce qu'à Fribourg, enseignant en université, j'étais obligé. Alors, c'est très vrai que j'avais déjà commencé au Sochoir. Et je me souviens très bien quand j'ai commencé à enseigner au Sochoir la philo, j'ai pris mes cours de sage étudiant. J'avais vraiment bossé mes cours. Entre deux, j'avais 4 ans d'Aristote. Et j'ai refermé les cours. Et si je peux pas, je peux pas enseigner ça. Et alors j'ai essayé à ce moment-là de repenser. Le propre du philosophe, c'est d'ordonner. Si la philosophie est une sagesse, le propre du philosophe, c'est d'ordonner. Quel est l'ordre? Et j'ai tout de suite compris cette chose terrible. Des méditations métaphysiques de Suarez. C'est que on extrayait de saint Thomas des données philosophiques, mais on ne retrouvait plus l'ordre de recherche du philosophe.
La perspective du philosophe.
L'ordre. Et la découverte. Ouais. On ne prenait que des définitions. Et ces définitions prises de cette manière-là étaient inintelligibles. La scolastique, j'ai de temps en temps fait l'expérience de prendre certains manuels, mais c'est inintelligible. Une intelligence bien faite ne peut plus comprendre ça. Et je suis refermé ces bouquins-là parce que ça ne m'intéressait pas. Et alors, j'ai essayé de penser quel est l'ordre qu'on doit prendre aujourd'hui, puisqu'on fait de la philosophie pour aujourd'hui. Je ne fais pas de la philosophie comme un archéologue, moi. C'est très bien, laissons les archéologues être des archéologues. Mais en philosophie, je considère que la méthode archéologique, même si elle est exercée par certains maîtres, cette méthode archéologique n'est pas une méthode philosophique, c'est une méthode artistique. On est archéologue pour les œuvres d'art. Mais on n'est pas archéologue pour la pensée. Parce que la pensée n'est pas une œuvre d'art. Qu'on soit archéologue pour le style, pour la langue, ça va encore. Puisque la langue est une certaine œuvre d'art. Alors qu'on voit que on organise autrement un livre aujourd'hui qu'au moment de saint Thomas. C'est évident, l'ordre n'est pas le même. Alors c'est ça, tout mon effort était ça, chercher l'ordre. Quel est l'ordre qui existe dans une pensée philosophique? En essayant d'être réaliste. Or, Aristote le dit expressément. Aristote ne donne pas de méthode, c'est en dehors de son génie. Mais il donne des itinéraires merveilleux, extraordinaires, il trace des petits sentiers. Alors si on comprend ça, il faut partir de l'expérience. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expérience? On cherche à bien comprendre l'expérience. On voit qu'il y a deux types d'expériences. Une expérience très simple que je peux communiquer aux autres. Regardez comme c'est chaud. Ici, je peux dire à l'autre, regardez, mettez votre main. Est-ce que c'est chaud aussi pour vous? S'il me dit ah non,